Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez À Fleur de Mots, l'émission littérature et poésie de Radio TTU. Aujourd'hui, on va parler de poésie en compagnie de Sophie et Cyprien. Et pour commencer, c'est toi Cyprien qui va commencer et tu vas nous parler d'un texte du poète français Louis d'Aragon.
Oui, c'est un poème de Louis d'Aragon qui se nomme « Que la vie en vaut la peine ». Il paraît dans les yeux et la mémoire en 1954.
Et ce texte, eh ben, tu vas nous le lire maintenant.
C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie. La nuit immense et noire aux déchirures blondes. Rien n'est si précieux, peut-être qu'on le croit. D'autres viennent, ils ont le cœur que j'ai moi-même. Ils savent toucher l'herbe et dire je vous aime, et rêver dans le soir où s'éteignent des voix. D'autres qui referont comme moi le voyage, d'autres qui souriront d'un enfant rencontré, qui se retourneront pour leur nom murmurer, d'autres qui lèveront les yeux vers les nuages. Il y aura toujours un couple frémissant, pour qui ce matin-là sera l'aube première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne se passe après tout si ce n'est le passant. C'est une chose au fond que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont en eux, comme si ce n'était pas assez merveilleux, que le ciel un moment nous ait paru si tendre. Oui, je sais, cela peut sembler un court moment. Nous sommes ainsi faits que la joie et la peine fuient comme un vent menteur de la coupe trop pleine, et la mer à nos soifs n'est qu'un commencement. Mais pourtant, malgré tout, malgré le temps farouche, le sac lourd à l'échine et le cœur dévasté, cet impossible choix d'être et d'avoir été, et la douleur qui laisse une ride à la bouche. Malgré tout, malgré la guerre et l'injustice et l'insomnie, où l'on porte en rougeant votre cœur ce renard, l'amertume, et Dieu sait si je l'ai pour ma part, porté comme un enfant volé toute ma vie, malgré la méchanceté des gens et des rires, quand on trébuche et les monstrueuses raisons qu'on vous oppose pour vous faire une prison, de ce qu'on aime et de ce qu'on croit un martyr. Malgré les jours maudits qui sont des puits sans fond, malgré ces nuits sans fin à regarder la haine, malgré les ennemis, les compagnons, des chaînes, mon Dieu, qui ne savent pas ce qu'ils font, malgré l'âge, et lorsque soudain les cœurs vont flancher, l'entourage prêt à tout croire, à donner tort, indifférent à cette chose qui vous mord, simple histoire de prendre sur vous sa revanche, la cruauté générale et les saloperies qu'on vous jette, on ne sait trop qui faisant en école. Malgré ce qu'on a pensé souffrir les idées folles, sans pouvoir soulager d'un injure ou d'un cri. Cet enfer, malgré tout cauchemar et blessure, les séparations et les deuils, les camouflés, à tout ce qu'on voulait, pourtant ce qu'on voulait, de toute sa croyance imbécile à l'azur. Malgré tout, je vous dis que c'est dû fut tel, qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre qu'un seul mot que merci, je dirais malgré tout que c'est dû fut belle.
Merci Cyprien, c'était donc « Que la vie en vaut la peine » du poète français Louis d'Aragon, lu par toi du coup Cyprien. Est-ce que tu peux juste nous expliquer d'abord un peu vite fait pourquoi tu voulais nous parler de ce texte?
Alors quand on m'a parlé de l'émission sur la poésie, je me suis posé la question justement « Quel poème prendre ?» Et moi je ne suis pas un grand lecteur de poésie. Alors je me suis dit « Il faut un poème qui rassemble à peu près tout. Tout ce que moi, à mes yeux, représente la poésie. » Et puis, je suis tombé un peu par hasard, en fait, en scrollant sur TikTok et Instagram, par cette lecture de Jean d'Ormesson de ce texte. Et en fait, je l'ai trouvé tout à fait magnifique et tout à fait ce que j'attendais de la poésie. En fait, c'est plutôt cette lecture lyrique, en fait, alors qu'on utilise souvent un peu à mauvais escient, mais lyrique dans le sens vraiment, on chante. Et d'ailleurs, ce texte-là était écrit pour être chanté par Louis Ferré, si je ne me trompe pas.
Léo Ferré,
qui était communiste comme Aragon. Et donc voilà, c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai pris ce texte.
Du coup, la première fois que t'es tombé dessus, c'est avec une du coup Jean d'Ormesson qui le lisait. Il y avait une façon particulière de le lire ou
Alors déjà Jean d'Ormesson, il a lu ce texte à la télé. Alors sur l'émission, je ne saurais m'en rappeler, mais c'était parce qu'en fait il avait écrit un livre où le titre c'était effectivement c'est une chose étrange à la fin que le monde, donc le premier vers. Donc là il le lisait et c'était fou, c'était vraiment le truc, tu sais, qu'on voit tout le temps, mode investisseur et tout. Genre vraiment, c'est que les musiques de fond, mode vraiment inspirant.
Deviens millionnaire,
tout ouais,
ça.
Ouais, exactement, tu vois. Et genre, moi, je m'en fous, tu vois, d'être millionnaire ou quoi, tu vois, mais genre, juste, j'ai écouté ça et je me suis dit, putain, pas mal, tu vois. Je me suis dit, stylé.
Ouais, et ça t'a pas donné envie de devenir millionnaire, non? C'était.
Ouais, pourquoi pas, tu vois, mais pas pour l'instant.
Ah, d'accord. Mais donc, ça veut dire que. C'est intéressant, ça veut dire que ton premier contact avec ce texte-là, il était oral, du coup.
Ouais, tout à fait.
Donc, il était. Souvent, on se dit qu'un texte à l'oral avec de la musique, ça donne une puissance un peu plus sensible au truc. C'est pour ça qu'on fait ça aussi dans cette émission. Et du coup, quand t'as commencé, quand là, tu l'as lu vraiment. Je veux dire, est-ce que tu peux me décrire nous un peu ta deuxième lecture, on va dire, à l'écrit cette fois-ci?
Ouais.
Juste, j'ai une question avant. Ça rejoint ce que tu dis. Est-ce que tu as lu le texte exprès pour l'émission et que du coup, dans ce cas-là, l'interprétation à l'oral t'avait suffi? Ou est-ce que t'as ressenti quand même le besoin de retourner à l'écrit pour t'en imprégner peut-être un peu plus ou quoi?
Bah alors, j'étais retourné le voir à l'écrit avant. Effectivement, alors déjà, le lit pas entièrement, en fait. En fait, c'est une lecture un peu simplifiée, mais je pense qu'il y a plus de sens quand tu le prends en entier. La question, c'était quoi, déjà? J'ai complètement oublié.
Ah oui, c'était... Non, mais globalement, toi, est-ce que Sophie demandait, est-ce que t'es revenu à l'écrit après l'avoir... Est-ce que juste l'oral, ça t'a suffi, ou est-ce que t'es revenu à l'écrit? Et qu'est-ce que ça t'a fait de revenir à l'écrit après avoir découvert ce texte-là à l'oral?
Ouais, donc je suis revenu, du coup, vers le texte en le lisant. Et c'est complètement autre chose, en fait, je pense, parce que effectivement, quand tu l'écoutes, déjà, ouais, il n'y a pas ce truc justement de se dire, tu vois, c'est pas fait pour moi, la poésie, c'est pas. Donc là, en fait, comme c'était lu, et il y a des marches après d'aller le lire, il n'y avait plus du tout ce truc-là de me dire, c'est pas pour moi, je vais pas comprendre, ça va pas me toucher. Donc, et en fin de compte, ça m'a touché, et donc voilà, je pense que ça a la différence.
Et qu'est-ce que t'en retiens de ce poème? Parce que. C'est vrai qu'il est assez long et là c'est la première fois personnellement que je l'ai entendu. J'ai trouvé ça vraiment très beau, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'éléments et que j'ai pas tout compris et que j'ai besoin de le relire pour m'en imprégner mieux. Toi, est-ce qu'il y a un passage ou une morale ou quelque chose qui t'a touché ou t'as...
Il y a beaucoup de choses dans ce texte en fait. Déjà il y a des côtés très personnels de Louis Aragon. Il y a du jeu qui est assez rare en fait en poésie, même en littérature, je trouve. Justement, et là, il dit beaucoup jeu, et il y a aussi un côté très universel dans le message. Bah, en fait, c'est de dire simplement que malgré tous les mauvais côtés, toutes les injustices et toute l'horreur du monde, en fait, la vie est belle en réalité. Et je pense qu'aussi à la fin, on se rend compte qu'elle est belle, je pense aussi à ce côté-là. Et lui, c'est son bilan en fait aussi d'ailleurs. C'est son bilan, et il dit.
C'est ça qui est intéressant. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Oui, c'est une rétrospective presque. C'est une analyse que tu fais à la fin d'une vie, quoi.
Et c'est même presque étonnant parce qu'en fait, c'était un homme. Je connais pas hyper bien sa vie pour le coup, mais je sais que c'est un homme. On connaît pour être hyper révolté, vraiment communiste à fond, tu vois, genre dans la lutte et tout. Et justement, tu peux te dire, mais en fait, le type est désespéré. En plus, là, il écrit dans ce texte, en plus, dans le moment où il est grosse désillusion des régimes staliniens. On peut dire en fait il est dans la déprime, mais en fait pas du tout. En fait, il est dans le truc. C'est pas grave en fait. Et ouais, on est qu'est passant en fait aussi de cette vie. Alors il y a un passage justement, il dit simplement nous ne sommes que passants en fait de cette vie-là. Et en fait peu importe. Et même il y a un autre message qui pour moi est hyper important. La vie du voisin ne vaut pas mieux ou elle est pas moins bien que ma mienne. Et ça c'est assez beau en fait aussi.
Et ce que je trouve intéressant dans le fait de lire des poèmes comme ça de plus anciens d'une autre époque, disons, c'est que ça m'a fait penser à ça quand t'as parlé de lui comme d'un homme révolté, c'est que chaque génération, disons, a eu ses raisons de désespérer. Et nous, aujourd'hui, on a des raisons de désespérer qui nous paraissent insurmontables. Je pense à l'écologie, par exemple, mais en vrai, il y en a d'autres. Comme certaines guerres et tout. Mais en fait, toutes les générations, elles ont eu leur raison de céder au désespoir. Et c'est beau de s'inspirer aussi de ceux qui, justement, n'ont pas cédé au désespoir. Et en plus, par la poésie, c'est magnifique.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas un rapport naïf au désespoir. Justement, il en parle aussi. Mais c'est intéressant, c'est presque... On dit que notre génération passe son temps à doomer, c'est-à-dire à déprimer. Et bah, lui, il est dans un espèce de réflexion post-doom, où il a quand même conscience de ce qui va pas, de ce qui a été dur, de ce qui a été même terrible, parce qu'on parle du régime stalinien, tu vois. Surtout quand t'es communiste, à l'époque, c'était très compliqué de se rendre compte de l'arnaque. Et lui, malgré tout, réussit à percevoir, à avoir un bilan presque, on pourrait dire mitigé, mais je veux dire, ni bien ni mal, un peu.
Oui, carrément.
Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, si on a fini d'en discuter, eh ben, on va pouvoir faire une petite pause musicale et écouter Nax de Franck Océan.
See the future first. We'll let you guys prophesy. We gon' see the future first. Living so the last night feels like a past life. Speaking of the donor, what got in the people? Devil be possessing homies. Demons try to body jump. Why you think I'm in this bitch? When the fucking yarmulke? Acid on me like the frame. Weed crumbles in the glitter. Rain. Glitter. We laid out on the sweat floor. Away turf, no astro. Mesmerized how the strobes glow. Look at all the people feet dance. I know that your nigga came with you, but he ain't with you. The only human in this humid in these ball mains. I mean my balls sticking to my jeans. We breathing pheromones, amber rose. Sipping pink gold lemonades. Feel it. I may be younger, but I look after you. We're not in love, but I make love to you. When
you're not here, I'll save some for you. I'm not him, but I mean something to you. I mean something to you. I mean something. Got a room and you'll hear what we do. It's only awkward if you're fucking a two.
C'était Nikes, du chanteur France Océan. Et maintenant, c'est au tour de Sophie de nous présenter un texte.
Un texte de Cécile Coulon, qui s'appelle Ma Force, et qui fait partie du recueil de poésie qui s'appelle L'Errance.
Exactement, et ce texte, d'ailleurs, tu vas nous le lire maintenant.
Ma force, c'est d'avoir enfoncé mon poing sanglant dans la gorge du passé. Ma force n'a pas d'ailes, ni de griffes, ni de longues pattes. Ma force a construit un peu d'humanité. Ma force a toujours soif. Ma force n'est pas fidèle. Pourtant, ma force n'est pas faite pour quelqu'un d'autre que moi. Ma force, c'est d'avoir pendu un enfant roi à la branche du succès. Parfois, ma force étouffe ce qui l'empêche d'avancer. Ma force est cruelle, elle manque de sommeil, elle se nourrit d'orgueil, de turbulence. Ma force n'a aucun sens. Elle n'a jamais cessé de se débattre. Ma force, c'est d'avoir compris la beauté des montagnes, d'avoir dormi dans les ventres des forêts. Ma force a mangé les entrailles de la terre, les vents glacés qu'il faut combattre. Ma force souffre en silence. Ma force m'accompagne, elle m'a si souvent ramassée. Ma force est légère, ma force ne m'oublie pas quand je crois l'avoir oubliée. Ma force n'est pas un don du ciel, ma force n'est pas un don du sang. Elle a grandi simplement et ne s'effondre jamais. Un jour, ma force n'aura plus la force de venir jusqu'à toi. Il faudra me porter, il faudra m'attraper. Il faudra me montrer les évidences que je ne vois pas. Ma force est fragile. Ma force ne demande rien. Ma force a toujours faim. Ma force a toujours froid.
C'était Ma Force de Cécile Coulon, lue par Sophie. Et du coup, dis-nous, toi Sophie, pourquoi est-ce que tu voulais nous parler de ce texte ?
Eh bien, peut-être parce que c'est un des seuls textes de poésie que j'ai lu en étant en dehors de l'école, que j'ai découvert seule et que j'ai apprécié vraiment, que j'ai compris, et j'ai pas eu besoin d'un prof pour me dire voilà, ça parle de ça et tu dois être touchée par ça, alors que ça a été écrit il y a beaucoup trop de siècles pour que je puisse comprendre vraiment. Et je l'ai découvert grâce au podcast sur Arte Radio qui s'appelle Un podcast à soi. Et donc ce texte, il est lu une comédienne en fait, dont c'est le travail, qui lit ça sur une musique, donc bien mieux que moi, et c'est magnifique. Et en fait, cet extrait du podcast, je l'ai réécouté plusieurs fois, plein de fois, dans les moments où j'avais besoin de l'entendre. Et ensuite, j'ai acheté récemment le recueil dans lequel il est, et j'ai lu aussi ce recueil, j'ai lu d'autres poèmes de Cécile Coulon. Et j'ai été très touchée par cette écriture qui est vraiment facile, qui est vraiment abordable et qui est touchante parce qu'elle parle de sujets totalement contemporains, totalement d'actualité. Et sinon, pour parler de ce dont parle le poème, y a un aspect un peu féminin, féministe à l'intérieur. En tout cas pour moi, parce que je l'ai découvert dans le cadre d'un podcast qui parle de la violence des hommes sur les femmes. Et ma force, ça m'a parlé dans des moments où je me sentais faible. C'est un peu logique à dire, mais voilà.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, que ce texte-là, tu l'as lu dans des moments où, je suppose, donc, tu avais besoin de force. Et ce que je trouve intéressant dans le texte, c'est qu'il ramène la notion de force, on va dire, qui a un truc un peu... comment dire, qui est un peu un truc un peu gros, dont on, qui est une espèce de, on voit souvent la force comme, je sais pas, un espèce de réservoir infini qui serait dans notre tête et dans lequel on irait puiser de force quand on a du mal. Et pourtant là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ramène la force à des réalités très matérielles. En, par exemple, à la fin, elle parle du fait que la force à un moment va vieillir, et elle ramène ça à la fatalité de l'âge. Elle parle du fait que la force est aussi nourrie d'orgueil, de sentiments qui sont jugés comme négatifs. Du coup, comment est-ce que ça, toi, ça te permet d'y puiser de la force, alors que justement c'est pas un énième discours de motivation random sur TikTok qui dit que la force est illimitée, que c'est que dans la tête.
Ouais, en fait Cécile Coulin, elle va vraiment dans les paradoxes de ce que c'est la force. Elle parle même, disons, de la faiblesse que peut avoir la force, et j'ai l'impression qu'elle elle fait de la force une sorte de personnage, d'objet ou de choses qu'on aurait en soi, qui serait mouvant, qui serait vivant, qui changerait au gré, du coup, de ce que tu dis, l'âge et de notre énergie aussi qu'on peut avoir. Mais ce que je retiens, moi, c'est que la force, elle est toujours là, en fait. Donc elle est pas toujours là dans la, disons, dans la même quantité, pas toujours là, voilà, quand on a besoin forcément, mais en gros on la perd jamais vraiment, et on traverse la vie avec elle. Et moi, ça a été hyper important personnellement de savoir que j'avais de me dire oui, j'ai une force, et j'ai le droit d'avoir de la force, et c'est bien, et je l'aurai toujours, et je peux m'en servir quand je veux, et voilà.
Ouais, de savoir que même dans les moments de turbobad, t'as quand même une force, juste elle est pas dans un état.
Oui, c'est ça. Dans les moments où j'arrivais pas, principalement pour moi, c'était dans les moments où j'arrivais pas à m'imposer, à exister tout simplement. Parce que parfois dans la vie, il faut de la force pour certaines choses, pour être reconnue, pour être entendue, surtout quand on est une femme et tout. Et du coup, moi, ça m'avait parlé peut-être dans ce sens-là. Il y a aussi un rapport à la nature dans son poème. Elle parle vachement elle parle des montagnes et tout, et ça, elle en parle dans tout le recueil, parce que c'est en rapport à là où elle habite. Et bah, moi, ça me touche aussi parce que je viens de montagne, et du coup, voilà, évidemment, je suis contente parce qu'il y a montagne dans le poème.
Excellent. Et toi,
c'est peut-être une question un peu débile, tu vois, mais genre, est-ce que du coup, enfin, cette façon-là qu'elle a matérialisé la force, est-ce que du coup maintenant, pendant des moments, genre justement, tu te rappelles de ça, justement, de cette matérialité de la force, et ça permet aussi depuis justement toi pour dans des moments compliqués avancer.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un poème. Alors, en soi, je pense pas à la force comme ça, parce que j'ai pas tiré de ce poème un enseignement de développement personnel à me dire ouais, ce poème il veut dire ça, du coup je vais me rappeler de ça et ça va m'aider dans la vie. Mais par contre, je sais que le poème, lui, il est là, il existe, il a été écrit, il va pas bouger. Et pareil pour la lecture qui en avait été faite sur le podcast. Et du coup, j'y retourne souvent. Surtout à une période de ma vie, j'ai retourné beaucoup. J'ai écrit le poème. Et en fait, tout à l'heure, j'ai dit que c'était un des seuls poèmes que j'avais lu contemporain, mais c'est pas vrai du tout. En vrai, j'en ai d'autres. Et j'ai beaucoup tendance, quand il y a des poèmes qui me marquent, à les imprimer, les afficher chez moi, ou les recopier aussi. J'aime bien recopier les poèmes.
Ok, et justement, quand on a besoin ou quand on a envie de ce poème, tu l'écoutes sur l'épisode du podcast à soi ou tu le lis?
Au départ, ouais, c'est une bonne question. Au départ, je l'écoutais beaucoup. Et je crois que j'ai fini par plutôt me tourner vers la lecture. Maintenant, je l'écoute plus, je crois, parce que je l'ai trop écouté. Et j'ai envie qu'il m'appartienne un peu plus, en fait. J'ai l'impression que le fait de lire, ça permet beaucoup plus de s'approprier, soit personnellement, que de l'entendre lu par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a son intonation, il y a la musique derrière aussi, qui veut dire quelque chose. Et c'est vraiment magnifique, et j'adore encore aujourd'hui cette interprétation. Mais là, maintenant, ouais, j'aime bien le lire, parce que je le connais un peu mieux.
Ok. Et d'ailleurs, quand vous avez commencé à le lire, ça va aussi pour toi, Cyprien, quand vous avez commencé à lire ces deux poèmes-là, après les avoir écoutés, est-ce qu'en les lisant, vous aviez la voix de la personne qui vous l'a fait découvrir à l'oreille, ou le son-ton qui vous revenait quand vous étiez en train de lire le texte?
Alors moi, non, pas forcément, parce que je pense aussi, comme justement je l'ai beaucoup lu aussi, j'ai plus sa voix, Et en plus, comme là, le poème que j'ai lu, en fait, c'est un plus long texte, parce que les leçons, on va dire, coupent de façon volontaire. Bah, du coup, c'est plus vraiment le poème que j'ai lu, enfin, que je lis, que c'est les leçons. Donc, en fait, ouais, c'est. Non, je l'écoute plus. Enfin, j'entends plus Jean Masson.
Ok.
Moi, je crois que je l'entends un peu. Bah, particulièrement tout à l'heure, quand je l'ai lu. Je crois qu'en le lisant, je me suis un peu rappelé l'intonation. J'ai peut-être essayé un peu de la mimer. Je pense que c'est vraiment pas trop. Enfin, ça correspond vraiment pas à ce que fait la comédienne, évidemment. Mais je pense que l'intonation, la façon de lire, le rythme, en fait, j'ai gardé un peu le rythme dans ma tête. Mais ça m'empêche pas de me le réapproprier quand même. J'ai pas la voix en elle-même, c'est plutôt le rythme.
D'accord, très bien. Et bah écoutez, si on en a fini en tout cas avec ce texte là merci encore une fois Sophie de nous l'avoir présenté et puis de nous l'avoir lu. On va refaire une petite pause musicale et cette fois on va écouter Love Songs for Robots de l'artiste canadien Patrick Watson. C'était Love Songs for Robots de Patrick Watson, une chanson absolument incroyable, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et maintenant on va passer au troisième texte, donc c'est moi qui vais vous présenter un texte. Donc c'est un texte qui est un extrait d'un texte qui s'appelle L'été à Alger, qui lui-même est un texte qui est un extrait d'un recueil d'Albert Camus, donc qui s'appelle Noce suivie de l'été. Et du coup je vais vous lire un extrait de ce texte-là, donc L'été à Alger. Ce qu'on peut aimer à Alger, c'est ce dont tout le monde vit. La mer au tournant de chaque rue, un certain poids de soleil, la beauté de la race. Et, comme toujours, dans cette impudeur et cette offrande, se retrouve un parfum plus secret. Ici, du moins, l'homme est comblé, et assuré de ses désirs. Il peut alors mesurer ses richesses. Il faut sans doute vivre longtemps à Alger pour comprendre ce que peut avoir de desséchant, un excès de bien naturel. Il n'y a rien ici pour qui voudrait apprendre, s'éduquer ou devenir meilleur. Ce pays est sans leçon. Il ne promet ni ne fait entrevoir. Il se contente de donner, mais à profusion. Il est tout entier livré aux yeux et on le connaît dès l'instant où l'on en jouit. Ses plaisirs n'ont pas de remède et ses joies restent sans espoir. Ce qu'il exige, ce sont des âmes clairvoyantes, c'est-à-dire sans consolation. Il demande qu'on fasse un acte de lucidité, comme on fait un acte de foi. Singulier pays qui donne à l'homme qu'il nourrit à la fois sa splendeur et sa misère. La richesse sensuelle dont un homme sensible de ce pays est pourvu, il n'est pas étonnant qu'elle coïncide avec le dénuement le plus extrême. Il n'est pas une vérité qui ne porte avec elle son amertume. Comment s'étonner alors si le visage de ce pays, je ne l'aime jamais plus qu'au milieu de ces hommes les plus pauvres. Beaucoup affectent l'amour de vivre pour éluder l'amour lui-même. On s'essaie à jouir et à faire des expériences, mais c'est une vue de l'esprit. Il faut une rare vocation pour être un jouisseur. La vie d'un homme s'accomplit sans le secours de son esprit, avec ses reculs et ses avances, à la fois sa solitude et ses présences. À voir ces hommes de belle cour qui travaillent, défendent leurs femmes et leurs enfants, et souvent sans un reproche, je crois qu'on peut sentir une secrète honte. Sans doute, je ne me fais pas d'illusions. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans les vies dont je parle. Je devrais dire qu'il ne y en a plus beaucoup. Mais du moins, elles n'ont rien éludé. Il y a des mots que je n'ai jamais bien compris, comme celui de péché. Je crois savoir pourtant que ces hommes n'ont pas péché contre la vie. Car s'il y a un péché contre la vie, ce n'est peut-être pas tant d'en désespérer que d'espérer une autre vie, et de se dérober à l'implacable grandeur de celle-ci. Ces hommes n'ont pas triché. Dieu de l'été, ils le furent à 20 ans, par leur ardeur à vivre et le sont encore, privés de tout espoir. J'en ai vu mourir deux. Ils étaient pleins d'horreur, mais silencieux. Cela vaut mieux ainsi. De la boîte de Pandore où grouillaient les maux de l'humanité, les Grecs firent sortir l'espoir après tous les autres, comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole plus émouvant. Car l'espoir, au contraire de ce qu'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, ce n'est pas se résigner. Donc c'était un extrait du texte « L'été à Alger », qui lui-même un morceau du recueil « Noce suivi de l'été », donc d'Albert Camus, qui est un texte qui, en gros, qu'on pourrait appeler de poésie philosophique, où il raconte, là en l'occurrence, il raconte plusieurs étés qu'il a passés à Alger, puisqu'il est né là-bas, et dans lequel il distille un peu certains de ses concepts, certaines de ses réflexions clés. Et moi c'est un texte que je trouve justement très 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 beau pour ça, parce qu'il donne un peu une puissance sensible de la philosophie, à des concepts qu'on peut trouver un peu creux, un peu dur à comprendre, un peu froid. Et ça, c'est un truc qu'Albert Camus fait tout le temps et que je trouve incroyable. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé.
Je sais que tu t'intéresses pas mal à Camus. Est-ce que tu as commencé par ce que tu dis, la théorie plutôt froide, même si elle est jamais vraiment, de ce que j'ai compris, en ce qui concerne Camus. Mais en tout cas, est-ce que tu as commencé par vraiment la théorie, ou est-ce que c'est d'abord ce genre de textes qui t'ont fait t'intéresser à Camus?
Mais c'est exactement ça. Moi, j'ai commencé par lire L'étranger. Et donc, L'étranger qui est un peu le texte de roman qui permet de démontrer un des concepts dont Camus a le plus parlé, qui est l'absurdité, et qui développe sous forme d'essai philosophique vraiment dans Le mythe de Sisyphe, qui est le livre que j'ai lu juste après L'étranger. Et c'est exactement pour ça qui m'a touché, qui m'a même matrixé. Et parce que justement, il arrive à donner une puissance sensible à des concepts qui effectivement ne sont jamais vraiment froid même dans le reste de la philosophie, mais qui, voilà, il arrive vraiment à lui donner ça. Et pour moi, c'est ça en tout cas, c'est ma définition personnelle de la poésie, et c'est pour ça que j'en parle ici, de cet texte-là de Camus. C'est-à-dire que pour moi, la poésie, c'est affirmer par la littérature un rapport esthétique et sensible au monde. en fait. Et donc, finalement, même si là, il parle de philosophie, il parle de sa philosophie, il le fait d'une manière que je trouve poétique. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça pertinent de, bah, d'en parler ici. Et d'ailleurs, je parle du mythe de Sisyphe comme un essai où il plaquerait de façon un peu plus froide ses idées. Mais en vérité, c'est même pas le cas. Enfin, je sais que moi, un des trucs qui m'a vraiment bouleversé chez Camus, c'est la fin du mythe de Sisyphe, où justement, bah, il décrit ce qu'est l'histoire de Sisyphe, donc cette histoire de la mythologie grecque où un homme est condamné par les dieux à pousser un rocher, et à chaque fois qu'il pousse le rocher en haut de la colline où il doit la pousser, bah, il retombe et il est condamné à faire ça pour l'éternité. Et Camus, après avoir développé toute sa philosophie autour de l'absurde et de la révolte, donc de la façon qu'il considère la bonne pour... lutter contre l'absurdité de la vie, et ben il l'a décrit en racontant cette histoire-là de Sisyphe. Et je trouve, enfin, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent et vous aussi à aller lire ce texte parce qu'il est absolument magnifique et que, ouais, voilà, c'est ça, c'est de la poésie dans le dans des concepts philosophiques.
Ouais, je trouve ça super intéressant parce que dans notre société, enfin en France, on a beaucoup tendance à séparer la littérature des sciences et notamment des sciences dures, alors qu'en fait il y a plein de scientifiques qui sont des physiciens, des mathématiciens qui ont fini par se poser des questions justement métaphysiques et pour aller vers des formes d'art, mais il y a aussi tout un tas de gens qui restent uniquement dans ce qu'on peut appeler le rationnel, la rationalité, et qui n'arrivent pas à sortir de ça et qui sont que tout le temps dans des réflexions purement intellectuelle et purement théorique. Et je trouve que c'est une grande qualité chez un intellectuel que de réussir à ne pas être que dans la théorie, dans ce qui paraît un peu froid, et d'arriver à toucher les gens, à être artiste en même temps. Je trouve que c'est une très belle qualité.
Ouais, tout à fait. Et moi, il y a un gars qui fait ça très très bien. Enfin, je dis un gars alors que le mec est quand même un peu stylé. C'est Hubert Reeves, qui est un des astrophysiciens francophones les plus connus. Et lui, il a écrit un recueil aussi de réflexions philosophiques qui s'appelle Le banc du temps qui passe, où il parle notamment il intègre certaines de ses connaissances à lui sur l'univers, l'histoire de l'univers, pour développer des réflexions philosophiques et poétiques aussi. Et lui, je trouve qu'il fait ça merveilleusement bien, parce que autant il me semble qu'on peut quand même imaginer facilement comment faire de la poésie avec des concepts philosophiques, parce que ça parle de tout un tas de choses, notamment des choses qui sont sensibles. Mais l'astrophysique, tu dis a priori c'est quand même ultra barbare comme science, parce que c'est très complexe, c'est très fin, c'est des maths, c'est des chiffres, etc. Et lui, il arrive à le faire, donc je trouve ça merveilleux.
Moi, c'est une question. Ouais, j'ai du mal à voir ce que c'est le mythe
de Sisyphe.
Voilà, ça. Et en fait, du coup, tout le texte, c'est en fait une sorte d'essai poétique, c'est ça ?
Alors, c'est un essai philosophique un peu classique. C'est juste que pendant tout le bouquin, en gros, le point de départ de l'essai, c'est Camus qui s'intéresse à la question du suicide. La première phrase de l'essai qui est légendaire, c'est « Il n'y a qu'un seul problème philosophique véritablement sérieux, et c'est le suicide. » Parce que selon lui, le suicide pose la question du sens ou de l'absence de sens de l'existence. Alors, c'est parce qu'on estime qu'il n'y a pas... Enfin, selon Camus, c'est parce qu'on estime que la vie n'a pas de sens qu'on met fin à ses jours. Et donc en gros, lui, il va expliquer que il va développer déjà l'absurde, le rapport de l'humain à l'absurdité du monde, de la vie, etc. Et il va dire que selon lui, le suicide, que ce soit un suicide littéral, donc se tuer, ou alors le suicide philosophique, qui est le cynisme, pour lui n'est pas la réponse rationnelle ou logique à l'absurdité du monde. Pour lui, la réponse, c'est la révolte. C'est-à-dire le fait d'avoir constamment conscience de l'absurdité du monde et de la vie, et de continuer à lutter, et de continuer à refuser l'absurdité du monde, et de ne rien lâcher, en gros, même si là je vulgarise et je donne à cette philosophie qui est très complexe un aspect de développement personnel TikTok, bon bref, c'est pas grave. Et en fait, justement, une fois qu'il a développé un peu toutes ses takes, une fois qu'il a développé un peu tout ce qu'il avait à dire, et ben là, il prend le mythe qui est à l'origine du nom du bouquin, pour l'exemplifier, quoi, pour lui donner une puissance sensible, pour en faire parce que voilà, le mythe de Sisyphe, c'est genre l'histoire qui raconte parfaitement la question qu'il traite pendant tout le bouquin, tu vois.
Non, c'est vrai que c'est étonnant comme texte, hein, en termes de poésie, parce que honnêtement, il y a beaucoup de poésie, justement c'est va être c'est très recherché, justement, et ça va être ça peut, voilà, il y a plein de figures de style, tout ça. Actuellement, dans ce texte là il n'y a pas vraiment, il n'y en a pas, ou enfin voilà, pas dans la forme on peut l'imaginer en poésie. Et il y a quand même aussi un message philosophique hyper intéressant. Notamment, il décrit aussi un peu Alger. Mmh. Ça. Et c'est assez impressionnant, je trouve, comme texte et comme travail.
Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Et puis, bon, après, il a un style, moi, il me semble que c'est de la poésie aussi, mais c'est vrai que c'est pas de la poésie en vers avec des syllabes qui sont comptées, oui. des figures de style très. Enfin, c'est pas une question de figure de style pour le coup, parce que ça reste un texte, donc il y a des figures de style dedans. Mais
oui, il y en a,
je veux dire, voilà, c'est ça. Donc, mais c'est juste qu'effectivement, ça sonne un peu moins comme de la poésie, c'est de la prose en fait. Un peu ça, de la prose.
Et c'est vraiment annoncé comme de la poésie par Camus, ou c'est toi aussi qui te dis ce texte est en soi de la poésie?
Il me semble pas que Camus ait prétendu être un poète quand il a écrit les textes qui sont dans Nos. Mais ouais, moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, je pense que la poésie, c'est affirmer par l'écriture un rapport sensible au monde, un rapport esthétique au monde. Et là, je trouve qu'il le fait très bien. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est de la poésie.
Mmh. Oui. De toute façon, je pense que la question de ce qu'est la poésie, c'est assez vaste, et je pense que ça pourrait carrément faire l'objet d'une émission. Et en fait, on sait qu'il y a plein de choses qui finissent par être considérées par la poésie, mais qui à l'époque où elles ont été faites ne le sont pas du tout. Et je pense aujourd'hui on peut clairement parler, à mon avis, du rap, qui est pas du tout considéré, pas
tout à fait,
qui commence à l'être, mais pas considéré comme de la poésie, mais qui, je pense, dans certains textes de rap plus tard pourront limite être étudiés par les collégiens. Et en vrai, c'est un truc que plein de gens disent, et voilà, c'est un peu bateau de dire comme ça. Mais je voulais aussi dire que quand t'as parlé de L'étranger, moi j'ai lu L'étranger de Camus, et j'ai pas du tout lu d'essais philosophiques, j'ai pas lu Le mythe de Sisyphe et tout, mais j'ai été bouleversée par L'étranger. Et je trouve ça, pour aller à l'inverse de ce que je disais avant, je trouve ça aussi beau qu'un penseur, qu'un philosophe puisse me toucher, mais uniquement du point de vue artistique, sans aller provoquer chez moi une réflexion sur l'absurde, etc. Parce que ça se vaut aussi, en fait. Et un texte n'a pas besoin d'être chargé de questionnements philosophiques ou d'idées et de concepts renversants pour être touchant, et la simple beauté de l'art, personnellement, me suffit.
Mais après, là, en l'occurrence, quand tu parles de L'étranger, il est chargé de concepts et de notions philosophiques,
oui,
c'est même ce qui déborde du texte, je veux dire, c'est suffisamment, Camus est suffisamment, suffisamment fort pour te le faire tellement ressentir que t'en oublies que derrière, on a un philosophe qui a pensé ces trucs-là, qui en a fait des essais, etc.
Ouais, mais quand je l'ai lu, moi, je l'ai pas du tout compris, en fait. C'est ça. Donc si pour moi je l'ai pas compris, c'est comme si ça y était pas. Peut-être.
Mais je vois ce que tu veux dire. Et oui, juste pour revenir à ce que tu disais aussi, Cyprien. Moi, ce que je trouve aussi pas mal pour parler là, juste un peu pour finir du style de Camus, c'est exactement ce qu'on retrouve dans L'étranger, c'est-à-dire qu'il a une façon de décrire la réalité qui est, je trouve, implacable, pour reprendre un mot qu'il utilise dans la poésie, qui est très lucide, qui peut paraître très froide aussi, mais qui est très belle. Moi, j'aime beaucoup quand il dit « Sans doute, je ne me fais pas d'illusions. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans les vies dont je parle. » C'est-à-dire que c'est très... Enfin, comment dire, je trouve que cette espèce de... Voilà, il essaye de décrire, il essaye de rendre beau des vies de personnes pauvres à Alger, de personnes même miséreuses. Et j'aime bien le fait qu'il ait le recul de se dire que c'est pas parce que je suis en train de rendre ça beau en le décrivant et en l'écrivant que ça l'est. Enfin, il ignore pas ce qu'il y a de... Comment dire, c'est pour ça que ça... Je trouvais que ça résonnait aussi avec le texte d'Aragon, qui est qu'il ignore pas ce qu'il y a de fatal et de triste dans la vie.
Ça fait juste penser à La misère est si belle de PNL, et je voulais le citer.
C'est vrai.
Ah, parfait, du coup ça revient avec ce que tu dis juste avant sur le rap. Donc, quelle cohérence dans cette émission, c'est incroyable.
Non, et moi j'avais lu aussi du coup L'étranger. J'ai lu aussi d'autres choses de Camus, j'ai lu La peste. Et j'ai lu surtout, je pense, un texte qui est assez important, il y a Le premier homme. Et justement, alors moi, c'est sur, du coup, il revient vraiment sur son enfance, notamment aussi sur la relation avec son professeur. Et du coup, maintenant que j'ai en tête, qu'il vient aussi d'un milieu très pauvre, notamment d'Alger. Et justement, je pense aussi cette froideur qu'il a, c'est parce qu'il vient de ce milieu-là. Et comment il peut se permettre, lui, de justement d'avoir ce regard-là que Pont ne pourrait pas justement avoir un type qui vient un peu de la bourgeoisie, tu vois.
Genre, oui, certainement que un poète bourgeois aurait un point de vue plus peut-être naïf,
oui,
en essayant de rendre la pauvreté un peu belle.
C'est ça, exactement.
Et alors que lui, il est juste là-dedans. Et moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est ce qui rend le texte merveilleux aussi. Donc je sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Mais si c'est pas le cas, on va écouter Brazil de Deux Clans McKenna. Et on va passer tout de suite à la section un peu débat de cette émission. Donc, pour reprendre un peu ce que t'expliquais au début, Cyprien, tu parlais du fait que t'avais jamais vraiment lu de poésie. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que t'étais tombé sur une interprétation orale du texte que t'as lu en début d'émission. Mais en tout cas, il y a un truc que tu m'as confirmé avoir fait et que je pense qu'on a tous fait à l'école, c'est apprendre des poésies, les apprendre par cœur dans un contexte scolaire. Et justement, À quel point vous ça vous a marqué? Je sais que pour ma part ça a vraiment détruit un peu mon rapport à la littérature et surtout au plaisir un peu sensible de lire un poème et d'être touché par ça, parce que l'école en fait et la froideur de l'école. Et je sais pas vous, c'est quoi votre rapport à ça?
Moi tu vois, j'ai un rapport un peu comme le tien, c'est-à-dire que c'est genre apprendre la poésie par cœur, la réciter devant tout le monde, pour moi c'est un enfer, tu vois, genre passer au tableau, un enfer. Et puis en plus j'ai une super mauvaise mémoire, donc tu fais devant le tableau, tu dis pas un mot, c'est super gênant, tu vois. Mais tu vois, c'est vrai, et moi c'est des moments comme ça tout le temps, alors qu'au fond en fait on s'en fout d'apprendre par cœur un poème, genre tu vois, c'est cool de savoir pour dire aux potes, ouais je connais par cœur une fable de La Fontaine,
mais au fond, pas tant que ça, hein.
Enfin moi très vite, mais... j'ai arrêté de m'en vanter.
Pardon.
Mais tu vois, genre, le truc justement, ça sert un peu à rien, et genre on te force à le faire, et justement ça peut te dégoûter vachement de la poésie ou de la littérature. Ouais, c'est un peu mon rapport justement, genre un peu l'angoisse de m'en passer devant tout le monde.
Ouais, moi je sais que j'ai l'impression que s'il faut apprendre des poésies par cœur, c'est parce que la poésie c'est un prétexte à apprendre des trucs par cœur pour faire travailler notre mémoire. Sauf qu'au final, ça détruit un peu notre rapport à un truc qui est censé être émouvant, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Et toi, Sophie, c'est quoi ton rapport à ça justement?
Moi je suis un peu comme la meuf dans Harry Potter, là. Genre, je suis vraiment la bonne élève que tout le monde déteste et tout. Et moi j'aimais bien aller au tableau et montrer aux autres et à la prof surtout. Pas tant aux gens, mais aux profs que je savais. Et du coup, ouais, vraiment bon élève, quoi, horrible. Parce que je pense que j'ai des facilités à apprendre par cœur des trucs. Mais j'avais quand même... j'étais un peu torturée, du coup j'étais là. Faut quand même que je m'imprègne du texte. Je peux pas juste le lire froidement et tout.
Ouais, vraiment. Elle avait 9 ans.
Et du coup, j'essayais quand même de m'imprégner des textes. Mais globalement, bon, voilà, c'était pas fou. C'était quoi, Jacques Prévert, tout ça C'était marrant, mais j'ai pas du tout ressenti ce que j'ai pu ressentir plus tard. Il n'y a pas cette émotion. Et à cet âge-là, je trouve que l'émotion, ça va, pour moi en tout cas, beaucoup plus passer par, je sais pas, des films, des trucs comme ça, des musiques et tout, mais pas par la lecture, en tout cas, pas pour moi, et surtout par la lecture de poèmes.
Mmh. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui influence ça, c'est le choix de ce qu'ils font lire aussi à des gamins, quoi. Alors à la limite, bon, les fables de La Fontaine, voilà, c'est des analogies, il y a des animaux, bon, ça peut être compréhensible, mais pour parler de poésie, même de littérature en général, genre je sais, pour parler de littérature, j'ai lu L'Étranger en quatrième, comme beaucoup de gens qui étaient au collège à mon époque, avaient ça dans le programme, quoi. C'est-à-dire, qui capte L'Étranger en quatrième? Mon frère, j'ai lu L'Étranger, j'étais là, ok, le gars, il pleure pas l'enterrement de sa mère, il a buté un gars, trop chelou, et c'est tout, et t'arrives pas à voir ce qu'il y a derrière. Et c'est là je parle de littérature, mais c'est d'autant plus vrai pour la poésie, qui, comme on l'a dit plein de fois, est un truc qui est censé être un peu sensible, quoi, enfin qui est censé déclencher chez toi un truc un peu sensible, et voilà, on t'abreuve de textes qui sont des grands classiques de la littérature française, qui ont été écrits à une époque avec un langage que tu comprends pas, parce que justement c'était il y a longtemps, et que ça, enfin moi je trouve que ça brise vraiment ça, et que c'est vraiment foireux comme approche.
Mais justement, sur ce langage, je sais, genre, hyper compliqué, et qui peut être complexe pour un enfant de le comprendre, moi j'ai toujours ce truc un peu, même encore aujourd'hui, de me dire, est-ce que la poésie c'est fait pour toi? Est-ce que tu vas vraiment ouvrir un recueil de poésie? Est-ce que tu vas vraiment te lancer dans la poésie? Est-ce que tu vas t'imprégner d'un poème? En fait non, enfin tu vois, intuitivement je vais me dire non, mais en fait c'est un peu bête, tu vois, parce qu'en fait je pense que je pense que tu t'y lances justement en ouvrant un recueil de poésie et en lisant et en te laissant entrer dedans, en fait. Et justement j'ai encore ce truc là justement de me dire c'est trop compliqué pour moi, je vais pas comprendre, il me faut genre à côté genre un énorme bouquin d'explication de texte, tu vois. Et c'est un peu dommage, parce qu'en fait du coup je passe à côté de toute une grande partie de la littérature, en fait.
Pour rejoindre ce que tu viens de dire, justement, moi je trouve que c'est pas tant la contrainte, puisque comme j'ai expliqué, ça m'a pas posé de problème, que le fait qu'il y ait une vraie distinction et une vraie différence, enfin un gros fossé entre la culture qu'on a quand on est né en 2003 comme moi et la culture que l'école nous offre et nous apprend. Et en fait l'école se présente comme ayant la culture, la vraie culture, la culture légitime comme on l'appelle, Et du coup, il y a assez vite des sentiments de honte qui naissent quand on ne connaît pas certaines choses, que les profs te font comprendre que c'est censé être connu, quand tu ne comprends pas certaines choses aussi. Et en fait, tu as l'impression, bah, comme tu viens de dire, en fait, que la vraie culture la plus belle, l'art le plus beau qui n'ait jamais été fait sur cette terre, tu ne peux pas y accéder, en fait. Et genre, c'est horrible. C'est vraiment une sorte de culpabilité qu'on te met et de... C'est affreux. Alors qu'en fait... Bah, juste dans la musique que les gens écoutent, dans les films qu'on voit et même les trucs les plus grand public et tout, il y a de la beauté et il y a de l'art et il y a du beau, du magnifique, du sublime, je sais pas qu'on peut le dire, il y a des émotions et c'est trop dommage de faire ces distinctions, je trouve.
Mais ouais, puis en plus de ça, tout ce qui s'écoute, tout ce qui se lit, tout ce qui se regarde aujourd'hui est inspiré de trucs qui ont été faits avant, qui sont même inspirés de trucs qui sont faits avant. Alors on pourrait se dire qu'une méthode logique pour parler à des gamins et leur faire progressivement découvrir des grands classiques de la littérature ou de la poésie, ça pourrait être de partir de ce qu'ils connaissent et puis au fil des années dire ah mais attends mais lui il s'est inspiré de ça, viens on va explorer ça, ah puis attends lui-même s'est inspiré de ça, puis de remonter au fil de la chaîne des inspirations pour réussir à trouver des textes grecs ou des classiques de la littérature française du 17e, tu vois. Mais là non, c'est-à-dire on arrive et on dit ah tu n'aimes pas Racine, bah tu es une merde. Tout simplement.
Et il y a quelque chose de, évidemment je ne l'ai pas dit avant, mais il y a quelque chose de très politique là-dedans qui est très lié à la classe sociale, parce que moi je me plains de ça, mais en vrai de la classe d'où je viens, j'ai un certain capital culturel qui fait que j'ai pas trop souffert de ça, beaucoup moins que d'autres personnes. Et donc en fait il y a une violence qui s'exerce et qui est une violence de classe en fait, à travers les goûts et à travers l'art et à travers ce que l'école veut imposer comme étant légitime. Donc c'est important, je pense, juste de le préciser.
Non, et puis je pense que effectivement, aussi je pense aussi la disposition qu'on met l'élève face à une lecture, bah c'est celle en fait à la fin il y a un contrôle, tu vois. C'est dire à la fin bah on va te faire réciter le truc, on va t'interroger sur le livre, donc comprends-le bien, sinon t'aurais mauvaise note. Et je pense que c'est un peu dommage en fait, parce que je pense que moi les plus, quand j'ai commencé à aimer la littérature et aimer lire, bah c'est vraiment me dire, en osant prendre un livre, à me dire, bon, bah, je le lis et puis on voit bien ce que j'en ressors, tu vois. Et justement, cette disposition-là, me dire, bah, en fait, banco, j'ai rien à perdre, bah, c'est là, en fait, qu'on devrait amener à chaque enfant. Et pas forcément, effectivement, pas en me disant, t'arrives pas à lire Racine, en fait, c'est pas grave de pas arriver à lire Racine. En fait, bah, prends n'importe quel livre et puis tout va bien, tu vois. Parce que je pense aussi, en tout cas, moi, je pense que la littérature est importante parce que c'est. En soi, je pense une discussion avec l'auteur, c'est un truc là, moi, avec pendant Camus, j'ai vachement eu ce truc là de discussion, mais je peux avoir avec plein d'autres auteurs, justement, qui m'instruit, et en fait, voilà, c'est un peu un truc comme ça, ce que moi je ressens de la littérature. Mais ouais, je pense que la disposition, en fait, est hyper importante dans le commencement et dans le déroulement de la lecture.
Mmh. Ouais, et puis, tu parlais de contrôle, il y a un truc où il y a quelqu'un d'autre qui est un prof. Donc qui est en plus de ça souvent méprisant et condescendant, qui va juger ton rapport à un livre. Et donc si t'as pas le bon rapport et si t'as pas compris ce que lui il a compris avec son CAPES et ses 40 ans, bah t'es nul en fait. Donc
tu es finito.
Exactement, et c'est juste terrible, c'est ce que tu décrivais Sophie, c'est non seulement une violence de classe, c'est puis une façon de détruire le rapport qui devrait être un peu émouvant, sensible des gens avec l'art, quoi. Donc voilà, j'ai rien à ajouter. En fait, j'ai juste dit que j'étais d'accord avec vous, en gros.
Et justement, vous, puisqu'on parlait de poésie dans cette émission, comment est-ce que vous avez réussi à vous réconcilier, à vous réapproprier la poésie après ces expériences à l'école ?
Bah, moi, la conciliation n'est pas totalement faite. tu vois, j'ai encore un peu de mal justement à me dire vas-y, prends un recueil et puis banco. Non, voilà, c'est même passé par l'audio, même par TikTok, tu vois. Je lis un truc et puis je me dis je l'écoute un truc et je me dis bah en fait il est cool donc je vais le lire. Donc je pense que ça passe pour moi en tout cas pour l'instant premièrement par ça, mais ouais j'ai encore un peu de mal effectivement à être réconcilié avec la poésie.
Moi c'est arrivé en première L. En fait je me suis retrouvé en première L mais sans vraiment le vouloir. Moi j'avais fait première L parce que je voulais faire une spécialité cinéma, donc autant dire que les cours de littérature je me torchais avec et je détestais ça. Et à un moment donné on a lu Les Fleurs du Mal en classe et donc je traînais, j'étais pote à l'époque avec des gauchistes en Sarwell fans de littérature qui étaient amoureux et surtout amoureuse parce que c'était beaucoup de meufs de Baudelaire, de ses textes, de la poésie en général, et qui en fait en... de quoi
T'as fait ça pour Pichou.
Presque. Mais et puis du coup, il y a une meuf qui était dans ma promo à ce moment-là, qui est maintenant une de mes meilleures potes, mais qui était effectivement ma crush à l'époque, qui m'a convaincu et qui m'a expliqué, mais si, lis bien le texte, regarde comme c'est super. Et j'étais là, ok, c'est vrai que c'est super. Et donc j'en ai lu un peu, une ou deux fois par plaisir à côté, et ça m'a un peu réconcilié avec avec tout ça, quoi.
Et toi, Sophie? Je pense que moi, c'est la musique en vrai, et aussi l'ennui. Alors, bizarrement, c'est l'ennui de l'école qui m'a poussée à la poésie. Surtout là, en études sup, donc principalement en première année, puisque la deuxième année était moins ennuyeuse. Mais la première année d'études sup que j'ai faite, il y avait beaucoup de cours, on était juste assis, on écoutait des profs, et c'était chiant. Mais j'avais un ordinateur, et du coup, je pouvais aller sur poésie.com ou je sais pas quoi. Et je sais pas pourquoi, mais vraiment, je sais pas du tout pourquoi. Des fois, j'ai des élans de, je sais pas, émotionnel comme ça, où je m'ennuie tellement que je me dis, waouh, putain, la poésie, et j'ai besoin de poésie, je sais pas pourquoi. Et je suis dans un état bizarre, et je lis des poèmes, et ça me transcende, alors qu'en face de moi, il y a un prof qui est en train de m'expliquer quelque chose, il n'écoute absolument pas. Bizarrement, en dehors de ça, quand je suis chez moi, en fait, je m'ennuie pas. Et j'ai autre chose à faire, et j'ai, je sais pas, des vidéos YouTube à regarder, des trucs. Et du coup, je vais pas aller me tourner vers la poésie, mais par contre, quand je m'ennuie, mais vraiment profondément, vraiment, je me fais bien chier, disons-le, là, j'ai des subites envies, vraiment comme une envie de manger un bonbon, ou j'allais dire autre chose, mais c'était pas très correct, bref, voilà.
D'accord, très bien. Non, mais je comprends. Enfin, je comprends. Moi, c'est pas tellement l'ennui, mais je sais pas pourquoi. C'est quand je me balade dehors. Je sais pas expliquer pourquoi, mais genre le fait de balader. Moi, j'adore contempler des trucs et passer des plombes à marcher dehors, à m'arrêter devant tout ce que je vois et faire oh, et c'est super joli. Et du coup, ça, je sais pas, ça active un espèce de mood dans lequel je me sens très open à. Je sais pas, à lire des textes et puis à être touché par les textes surtout, parce que je peux les lire à peu près n'importe quand, surtout si j'ai la déter et que je me dis ok, il faut que je lise ce livre et tout, c'est important. Mais pour vraiment être touché par quelque chose, ouais, ça va être dans un mood particulier. Et ben, si cet espace débat est clos, et ben on va pouvoir clore aussi l'émission. C'était à fleur de mots, pardon, avec du coup Sophie, Cyprien, juste ici en plateau. Merci à Laure qui était à la régie. Merci évidemment à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et à bientôt sur Radio TTU.